Bonjour, le livre dont je veux vous parler ce mois-ci n'est pas une nouveauté, mais plutôt un grand classique que beaucoup d'amateurs de vin ont lu, surtout quand ils sont aussi friands de bandes dessinées. Il s'agit de Les Ignorants, paru en 2011, et c'est le récit d'une initiation croisée entre le dessinateur de BD Étienne Davodeau et le vigneron Richard Leroy, tous deux jouant leur propre rôle en quelque sorte. Chacun d'eux est reconnu et même célèbre dans son domaine, mais ignore presque tout de l'univers de l'autre. Étienne va donc découvrir le métier de vigneron, la taille qui n'en finit pas au cœur de l'hiver, les vendanges, la vinification, les salons des vins, et abreuver Richard de lectures soigneusement sélectionnées, et l'emmener aussi à la rencontre d'autres auteurs de BD, chez son éditeur, son imprimeur, etc. On croise donc d'authentiques vignerons, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs, comme Fanfan Gadevin dans le Jura, ou encore les deux fils d'Antoine Arena à Patrimonio, Jean-Baptiste et Antoine Marie, qui partagent avec Richard Leroy cette ambition de rompre avec l'usage de la chimie, d'exprimer la plénitude du terroir et la main du vigneron, quitte à s'affranchir du carcan des appellations. On croise aussi bien sûr de vrais auteurs de BD comme Jean-Pierre Gibrat par exemple. Et ce qui est passionnant, c'est bien ce va-et-vient entre les deux univers et les parallèles que Davodeau trace entre les deux mondes, principalement autour de la question de l'éthique, la volonté de s'affranchir des codes pour produire une création personnelle, la relation au lecteur et au consommateur d'ailleurs, en est presque oublié tant ces deux-là sont d'abord préoccupés par le sujet de leur propre création. Le dessin de Davodeau est comme toujours d'une précision éclatante et son talent de metteur en scène nous donne toujours l'impression d'y être, de vivre avec ses personnages. Ses dessins de la vigne notamment sont sublimes. Je vous invite donc à lire ou relire « Les Ignorants » d'Étienne Davodeau aux éditions Futuropolis. Et comme Richard Leroy est installé dans les coteaux du Layon en Anjou, il me semblait tout indiqué ce mois-ci d'évoquer ce livre alors que nous nous promenons dans les vignobles de la Loire. Ce 24e épisode s'intitule « Franc du Cabernet ». Bienvenue dans la Terre à Boire. Troisième épisode donc, toujours sur cette route des vins de Loire, un territoire tellement grand, tellement immense, c'est le troisième territoire viticole français qu'on a décidé de le couper en deux. On fera un jour les blancs, les chenins, les sauvignons blancs, etc. Mais là pour commencer, on s'est dit qu'on allait commencer par les rouges et c'était donc l'épisode 22 où nous goûtions deux coups de vins issus du cépage et ensuite on s'est intéressé à un cépage qui est particulièrement ligérien comme on dit, c'est-à-dire qui vient de la Loire, qui était le Pinot de Nice, et on a eu le plaisir d'avoir Patrice Collin, le vigneron, nous parler de la façon dont il travaillait son Pinot de Nice, la façon dont il faisait du pigeage. Il nous a expliqué tout un tas de choses sur la manière dont ses vignes étaient plantées, avaient été plantées par son arrière-grand-père. Bon, voilà, une conversation passionnante autour d'un vin qui était un coteau du Vendômois, les vignes d'Émilien Collin, qui est donc l'arrière-grand-père de ce Patrice Collin que nous avions au téléphone. Et voilà, pour la troisième étape, nous voilà en face du morceau, quoi, du monument, le Cabernet Franc, le cépage le plus présent dans les rouges de Loire. Pour en parler ce soir, autour de la table, Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Qui a quitté pour le temps d'une émission le comptoir du Wine Therapy, là où vous pouvez le retrouver chaque jour, hein, à part le lundi, il me semble, et le dimanche, au 35 rue de Montholon à Paris 9e, c'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà, et on a toujours plaisir à aller, et notamment à aller préparer nos émissions en dégustant quelques verres. Et c'est toi d'ailleurs qui nous avais rapporté les deux premiers co qu'on a goûté dans le premier épisode. Les deux autres personnes autour de la table, ce sont Grégor.
Bonsoir.
Bonsoir Grégor, que vous avez plutôt l'habitude d'entendre pour
Le Chant de la Terre, cette chronique musicale si savoureuse, faite de ses recherches dans les chansons les plus anciennes et originales et méconnues et qui ont toutes
et improbables,
où on apprend que des gens sont morts alors qu'en fait on vient juste d'apprendre qu'ils existaient. Voilà, ça c'est un des charmes du Chant de la Terre. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Patrice Defay, bien sûr.
Bonsoir.
Un pilier de plus dans cette émission. Pour parler donc du Cab Franc, comme l'appellent les Américains, le Cabernet Franc dans la Loire. C'est un cépage qui est extrêmement important, qui est peut-être celui qui est le plus planté, vous allez nous dire ça. Pour en parler, Grégor, tu nous as sélectionné pour ta première en tant que chroniqueur vin et non pas chroniqueur musique. Tu nous as sélectionné un vin du côté de Saint-Nicolas de Bourgueil.
Oui. Alors là, on est en train de déguster une bouteille des pieds et des mains du domaine du Mortier, des frères Cyril et Fabien Boisard, qui sont donc le domaine du Mortier, c'est à Saint-Nicolas de Bourgueil. Alors pour commencer, je ne vais pas parler du vin, je vais parler de moi.
De
mon approche du vin. En fait, j'ai passé une partie de ma jeunesse dans le Bordelais, donc pour moi le vin c'était du Bordeaux, et puis après il y avait d'autres choses ailleurs, mais ça n'existait pas vraiment. Et il y a quelques années, par hasard, j'ai goûté une bouteille du domaine du Mortier, et puis quelques temps après je suis allé visiter le domaine et j'ai rencontré Fabien Boisard à cette occasion là et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça... déjà, j'y suis allé parce que j'avais beaucoup apprécié le vin que j'avais goûté. Et j'ai flashé sur la rencontre avec le viticulteur qui m'a promené dans ses vignes, qui m'a montré sa cave, qui m'a fait goûter ses vins et qui en parlait avec amour, avec passion. Et comme je partageais et que... Pour moi, c'était une première d'aller visiter les vignes. Je ne connaissais pas ça. J'achetais mon vin un peu... j'achetais du vin de temps en temps et je le prenais là où je le trouvais. J'aimais pas, mais je ne me posais pas tellement la question de ce que j'avais dans le verre. Alors que là, j'ai vu les raisins sur les pieds et tout ça. Et donc, pour la première fois, je me suis posé la question de ce que j'avais dans le verre. Et voilà. Donc ensuite, pour revenir au domaine en lui-même...
C'est un vin qui t'a rendu œnophile ?
Oui, je pense que quelque part, c'est une étape très importante dans la découverte du vin pour moi. Voilà, donc ensuite, Cyril et Fabien Boisard ne sont pas du tout d'une famille de viticulteurs. Ils ont fait tous les deux passionnés de vin, ils ont fait un BTS viticulture œnologie. Ils se sont installés en 96 à Saint-Nicolas de Bourgueil. Ils ont toujours travaillé en bio. Ils ont été certifiés en bio en 98. Aujourd'hui, ils suivent le cahier des charges Nature et Progrès. Ils travaillent en biodynamie. Ils cherchent à diminuer au maximum tout ce qui est apport chimique. Le sulfite, il y a quelques vins où il y en a, mais celui qu'on déguste là, il n'y en a pas. Donc, aucun soufre ajouté. Ils travaillent en sélection massale. Ils font...
Je t'arrête juste. Sélection massale, c'est un terme qu'on a déjà employé. Il faut juste qu'on dise ce que c'est, sélection massale. Il y en a un qui s'y colle. Là. Un, deux, trois, lequel ?
Sélection massale, ça veut dire que le vigneron...
Laurent.
Je vais y aller. Ça veut dire que le vigneron sélectionne dans ses vignes les cèpes qui sont les plus... de plus grande qualité, ceux qui...
Il choisit des cèpes parmi ceux qu'il a.
Voilà, exactement.
Donc, on imagine les plus vigoureux, ceux qui lui donnent les raisins, qui lui plaisent le plus, voilà.
Voilà.
Par opposition à une sélection...
Clonale.
Voilà, clonale.
Qui consiste donc à...
Aller dans une... dans une pépinière et récupérer des clones qui eux-mêmes sont le fruit d'une réflexion industrielle d'utiliser des cèpes qui ont été identifiés comme des cèpes vigoureux, productifs, etc.
A priori...
résistants aux maladies. Ouais. Sachant que ce que peut faire l'industrie en termes de sélection clonale, c'est-à-dire qu'ils testent pendant plusieurs années un clone... ce que ne peut pas se permettre le vigneron. Donc on peut considérer que Le vigneron, c'est un petit peu plus aléatoire. Le massal, la seule chose, c'est que ça préserve une forme de diversité que le clonal fait moins, à mon sens.
Moi, ça me rappelle cette histoire de levure, les levures indigènes ou les levures qu'on achète sur le marché. Finalement, massal, vigneron fait avec ce qu'il a. Donc, il va faire lui-même sa sélection. Ces cèpes-là, je les trouve éligibles à la reproduction, entre guillemets. C'est ceux-là que je vais sélectionner. Alors que sinon, il va chez le marchand et puis il achète des cèpes qui sont bien robustes, qui sont faits pour. C'est pas tout à fait la même démarche, même si les critères, a priori, de sélection vont être un peu les mêmes.
La sélection massale faite, en tout cas chez le vigneron, parce que je pense qu'il y a une sélection massale faite aussi dans certaines typologies d'orticules, et pas hors sol, on va dire.
Mais c'est ça.
La sélection massale se fait
on
sur le terroir, dans
c'est comme les levures,
etc.
Les levures indigènes, donc, priori, là, c'est un peu les cèpes indigènes, quoi.
C'est pas hors sol, quoi. Voilà.
C'est pas hors sol. Ça vient pas de l'extérieur, c'est lié au terroir.
On peut présupposer, je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus, que la sélection massale est plus exigeante, mais du coup plus en phase avec le terroir et donc plus adaptée à la diversité, à la spécificité du territoire où elle est ancrée.
Voilà, on referme la parenthèse. Merci, Grégoire.
Justement, en parlant de terroir, on peut parler aussi de parcelles. Et le domaine du Mortier fait 5 vins différents en Cabernet Franc. Alors, des vins légers qui s'appellent des sables, des vins un peu plus structurés qui s'appellent les graviers. Donc, le sable, ça correspond... Au sol, hein, c'est des alluvions et des sédiments de la Loire. Les graviers, comme le nom l'indique, c'est sur des graviers. Ensuite, ils ont un Dionysos, ils ont un domaine qui s'appelle une parcelle qui s'appelle l'Épin, qui n'est pas en Saint-Nicolas de Bourgueil, mais qui est en Bourgueil. Et ils ont celui qu'on goûte ce soir, là, des pieds et des mains, qui est en vin de France, donc pas en AOC.
Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il a choisi de le mettre en vin de France ou il n'a pas choisi, on lui a contraint de le mettre en vin de France. En tout cas, il est à Saint-Nicolas de Bourgogne, il fait pas un cépage exotique, hein, il fait du Cabernet Franc et pourtant on est dans un vin qui est appellation vin de France.
Alors qui est du coup foulé au pied, hein, d'où le terme, et qui est élevé au moins 24 mois en fût. Donc c'est le haut de gamme, en tout cas travaillé et présenté comme tel du domaine du Mortier.
Pas de sulfite ajouté, récolte à la main, foulée au pied.
Oui. À l'ancienne, quoi.
À l'ancienne, voilà. Et bio, évidemment. Et en plus, tu as parlé d'un label Nature
oui.
et Progrès.
Oui, le label Nature et Progrès qui est un peu plus restrictif que le label Agriculture biologique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Là.
Oui. Parlons de ce vin. Qu'est-ce qu'il vous dit, messieurs? Ce Cabernet Franc du domaine du Mortier, des pieds et des mains.
2014. Donc on 2014. Est sur une cuvée relativement jeune, en tout cas pour un Cabernet Franc qui peut, je pense, vieillir un petit peu plus. Au nez, au départ, il a eu un peu de mal à s'ouvrir. Il y avait, je trouve, en perception, mais ce qui arrive souvent sur les vins naturels ou très peu sulfités, ce qu'on appelle un petit peu de réduction, donc un petit nez de manque d'oxygénation, donc légèrement œuf pourri, on va dire ça comme ça.
On avait déjà rencontré ça dans le Beaujolais.
En s'ouvrant, voilà.
On avait déjà dit, c'est pas grave.
C'est pas forcément grave. Si c'est passager, c'est pas grave. Si ça reste, c'est plus embêtant.
Il aurait fallu le carafer un peu.
Non, mais là, ça y est, c'était à l'ouverture. Maintenant, il est déjà une demi-heure. Il était un petit peu froid, là, il commence à être à température, donc... Il est plus dégustable.
À la couleur, un beau grenat.
Ah ben, on change de registre de ce qu'on a pu avoir sur le Pinot de Nice.
Qui était quand même assez clair.
Qui était très clair.
Un peu façon Pulsar jurassien, là, effectivement. Un petit peu transparent, un petit peu clair. Là, on est plus dense comme couleur, clairement.
Là, le Cabernet Franc est quand même effectivement beaucoup plus soutenu. Un peu moins qu'un Cabernet Sauvignon, par exemple, mais on est sur une couleur bien, bien intense. Après, au nez, effectivement, il était un peu... Moi, je trouvais qu'il était un peu frais, surtout. J'ai pas senti la réduction, mais j'ai peut-être le nez qui est un peu... pas encore très, très net.
Alors, ce qu'on n'a pas dit encore sur le rouge en Loire, c'est que d'abord, c'est minoritaire, le rouge en Loire, c'est que... Alors, en Val-de-Loire, hein, donc je n'ai pas pris le centre-Loire, mais qui sont un peu moins productifs, c'est que 19% de la production. Okay. Le reste est en blanc et en rosé, donc le rouge, est en volume en tout cas, est assez minoritaire. Donc, le Cabernet Franc, c'est le cépage, on va dire, travaillé typique, enfin, on trouve essentiellement là en France, en tout cas en termes de travailler en monocépage. En tout cas, c'est là où il prend ses lettres de noblesse. En général, les deux appellations, en tout cas considérées comme telles, number one, on va dire, sur le Cabernet Franc, on est quand même plutôt à Chinon et à Saumur-Champigny, donc le Rougeard d'un côté, puis on a parlé de Baudry, on pourrait parler de Philippe Alliet, Charles Joguet en Chinon, qui sont les grands noms. Saint-Nicolas de Bourgueil et Bourgueil, là où on est actuellement, donc Saint-Nicolas de Bourgueil avec le domaine du Mortier, on est sur des vins qui progressent beaucoup, qui se rapprochent un petit peu de Chinon en ce moment en termes de potentiel, qui sont en général un peu moins tanniques, un peu plus accessibles, mais on trouve une expression un peu plus légère, un peu plus fraîche du Cabernet Franc, qui est un cépage assez exigeant. Exigeant, ça veut dire que s'il est mal travaillé, il peut vite tourner. Enfin, il a un nez de poivron vert qui est assez caractéristique. Hein, Laurent, tu me corriges si t'es pas d'accord, mais il peut vite tourner au poivron vert et il peut vite aller sur des tanins un petit peu anguleux. Donc, mine de rien, c'est un cépage, paraît-il.
Tanins anguleux.
Oui, enfin, un côté un petit peu rêche, un petit peu sec, qui manque de velouté. Donc, qui est un peu picotant, un peu carré, un peu...
Le contraire de tanin fondu.
Fondu, rond, velouté. Enfin, voilà, on voit bien l'idée des rondeurs par rapport à l'idée d'angle. voilà. Donc, voilà. Donc, et il peut être assez austère, du coup, assez austère en termes de goût et de sensations en bouche. Donc, ça reste un cépage assez exigeant, il paraît-il, qui peut vite tourner. Donc, au poivron vert, qui est sa caractéristique... je dirais, principal quand il tourne mal. On l'a un petit peu, mais légèrement, quand il est bien vinifié. Et voilà, il s'exprime assez bien avec le temps, après, alors, de manière globale, hein, sur les baies rouges, donc framboise mûre, et puis quand il évolue sur parfois des notes de réglisse. Et il paraît des arômes de violette. Moi, je n'ai jamais senti des arômes de violette sur le
Là, on l'a pas,
Cabernet
Franc,
la violette, là. Mais voilà, il paraît que ça peut le faire. Et puis, où il se révèle en Saint-Nicolas de Bourgueil et surtout à Bourgueil, il se révèle bien comme beaucoup de cépages travaillés en monocépage sur les mi-pentes. Et à Bourgueil, on a pas mal de mi-pentes. C'est un peu plus plat, je crois, du côté de Saint-Nicolas de Bourgueil. Mais voilà, et il a donc une expression à Saint-Nicolas qui est un peu moins tannique et un peu moins forte qu'à Chinon, mais un peu plus accessible, un peu plus fraîche, un peu plus. Gourmand, comme diraient d'autres.
Il y a un truc qui me frappe dans les différents rouges qu'on a goûtés, c'est que, alors dites-moi si c'est une erreur, mais on a goûté que des monocépages. Est-ce que la Loire est un territoire où on fait surtout du monocépage ou on fait aussi un peu d'assemblage ?
Non, il y a des assemblages. Bah, on parle du Cabernet Sauvignon, qui est plutôt l'incarnation de la structure, on va dire, des Bordeaux.
Oui, bien sûr.
Mais on utilise parfois le Cabernet Sauvignon. Enfin, parfois, assez souvent, le Cabernet Sauvignon pour apporter justement encore un peu plus de...
Et qu'on mélange avec quoi, alors
Cabernet Franc.
Qu'on assemble avec Cabernet Franc, voilà. Les deux.
Et puis, il y a des assemblages aussi co-gamay, on va dire, ou co-gamay-cabernet.
D'accord.
Là, c'est peut-être l'approche qu'on a décidé de donner. On aurait pu travailler et chercher des assemblages. On a plutôt essayé de prendre trois ou quatre cépages... rouge.
Travailler en monocépage.
Pour essayer de chercher un peu leur expression propre. Mais il y a des assemblages.
On ne peut pas dire qu'il y ait un assemblage dominant comme en Rhône, Sud, Grenache, Syrah, Mourvèdre, c'est le truc.
La dominante, c'est quand même le Cabernet. Quand il est travaillé en assemblage, il est plutôt travaillé en Cabernet Sauvignon. Je dirais que c'est quand même en volume l'accord rouge, à mon avis, le plus présent.
Franc
en Loire.
Et Sauvignon. Les deux Cabernets ensemble.
En gros, a plutôt travaillé à 80-90% Cabernet Franc. Pour exprimer la Loire, et 10% Sauvignon. Ou 15%,
pour donner de la structure.
Exactement.
En Bordelais, parenthèse, en Bordelais, Cabernet Sauvignon surtout.
Et Cabernet Franc en complément.
C'est ça. Donc,
voilà, c'est
l'équilibre est inversé entre ces rouges de Loire, ceux-là, hein, et les Saint-Émilion.
Alors les Saint-Émilion, il y a quand même beaucoup de Merlot. Hein.
Ah oui, il y a du Merlot.
Sur cette rive-là, c'est quand même beaucoup le
Merlot.
C'est le cépage roi. C'est plutôt
en Médoc. C'est plutôt en Médoc.
Médoc ou Médoc.
Mais là où le Cabernet Sauvignon est roi, c'est-à-dire effectivement en Médoc, on utilise pas mal le Cabernet Franc. Mais dans le Saint-Émilion aussi, on utilise du Cabernet Franc en complément de Merlot et Cabernet Sauvignon. C'est les trois cépages du Bordelais qui se trouvent assemblés avec du petit verre d'eau éventuellement, enfin, même assez souvent. En Bordelais, ce qu'on n'a pas dans la...
Toujours avoir un petit verre d'eau à côté de son verre de vin.
C'est important.
Ça marche bien.
Et pour l'anecdote, après le Cabernet Franc, on n'a pas cité dans la Loire, mais il y a un gars qui a eu un petit peu d'influence, parce qu'il a donné des noms à des cépages, il s'appelle François Rabelais.
C'était Louis Pasteur dans le Jura, mais là, François Rabelais.
Oui, ouais. Je dirais avec un côté beaucoup plus bacchique, dionysiaque, pantagruélique, voire gargantuesque. Donc, c'est lui qui a vanté en premier ce qu'on appelait à l'époque le breton. C'était le nom du Cabernet Franc. C'est lui, paraît-il aussi, François Rabelais, qui a fait des lettres de noblesse de la bonne bouffe et du bien boire.
À la bonne chair,
qui a dénommé apparemment aussi le chenin blanc. C'est lui qui a donné ce nom, alors qu'à l'origine, c'est du Pinot de Loire, hein, pour le chenin blanc. Mais voilà, enfin, François Rabelais a beaucoup vanté le Cabernet, notamment
Ligérien,
le Chinon.
Ligérien, François Rabelais ?
Bien sûr, Chinon.
D'accord.
C'est le gars du terroir qui a vanté son terroir. Donc, et on ne peut pas dire qu'il n'en ait pas parlé... et vanter les mérites à travers le monde, alors avec du vieux François certes, mais il en a bien et beaucoup parlé, encore une fois en nommant à sa suite certains cépages comme le chenin blanc.
Tu disais que la Loire c'est d'abord une terre de blanc, alors nous on fait un peu le contre-pied en parlant des rouges de Loire, mais pour autant...
Dans son volume.
Voilà, mais Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est vraiment des appellations rouges. Hein.
Rouge et rosé, pardon.
Il y a du rosé aussi.
Rosé.
D'accord. Jamais goûté ça, le rosé de Bourgueil.
Alors, les frères Boisard ont planté un peu de gros lots et ils ont fait quelques bouteilles de blanc les dernières années. Mais c'est un peu expérimental et très minoritaire.
Le gros lot étant le cépage qui sert à faire le rosé en Loire.
D'accord. En utilisant un cépage particulier pour le rosé.
Ça fait des assemblages, mais le gros lot est le cépage de prédilection du rosé en Loire.
Avec une cuvée qui n'est pas faite en rosé mais en rouge, qui s'appelle le gros lolo.
Gros lolo.
Non mais c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai.
Oui, tout à fait.
Qui travaille en rouge.
Le fameux gros lolo. Voilà. Ami de la poésie.
Ça existe.
Que dirions-nous de ce Cabernet Franc? Le goût de poivron qu'on associe généralement à ce cépage, vous le retrouvez là?
Absolument pas, moi.
Absolument
je suis même,
pas.
Même limite un peu déçu, parce que je trouve que c'est un peu le marqueur du
Cabernet Franc. T'attendais le poivron et tu l'as pas, quoi.
Certains, quand il est trop vert, ça peut être désagréable, mais, mais le marqueur du poivron, ça me dérange pas.
Qui est encore à dire sur ces vins rouges de Loire qu'on n'aurait pas encore évoqués. Donc là, une région intéressante, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, plutôt des vins qui sont dans une progression, on va dire. Les vins les plus installés, ce serait donc Saumur, Champigny, si j'ai bien noté.
Chinon.
Chinon.
Saumur, Champigny, Chinon.
Chinon et Saumur, Champigny, voilà, dans cet ordre.
Les appellations les plus fréquentes.
Les plus renommées, en tout cas.
Les plus établies.
Effectivement, Saumur-Champigny, c'est un peu le Creusot-Hermitage de la Loire. C'est-à-dire que c'est un vin, en général, qu'on propose dans les restaurants pour répondre à tous les besoins du repas.
C'est le couteau suisse du vin rouge.
Le vin qui est suffisamment équilibriste pour fonctionner sur un poisson comme sur de la viande. Oui. C'est souvent ce qu'on recommande.
Ce qu'on dit aussi du Creusot. C'est toi qui nous avais dit ça, du Creusot-Hermitage déjà.
Oui, c'est effectivement.
Le vin passe partout, qui marche avec tout.
Les deux vins qui sont les plus équilibristes, on va dire.
Sauf erreur, Creusot-Hermitage, ça va être une pure Syrah.
Tout à fait.
Ici, on est dans Saumur-Champigny, c'est du Cap Franc aussi.
Oui, Saumur-Champigny en termes de réputation, parce qu'encore une fois, il y a le Clos Rougeard qui, malheureusement ou heureusement, on verra, mais a priori, malheureusement, a été racheté par Bouygues. Le Rougeard, donc les frères Foucault.
Ils ont décidé de mettre du béton sur les vignes.
Non, on va pas dire ça encore, mais on va voir comment ils vont le tronc. Enfin, voilà, il y a des grandes propriétés qui sont rachetées par des grands groupes. Hein, donc Claude Delambray, je crois que c'est par LVMH, chose comme ça, à vérifier.
C'est intéressant parce que ça veut dire que
Le Rougeard, simplement, c'est juste pour dire que c'est les frères Foucault qui sont quand même très très connu, à l'aveugle, donc un Cabernet Franc qui arrivait, encore une fois, bien aspect positif ou négatif de dégustation à l'aveugle, mais que le Rojard, il y a quelques années, c'est ce qui a fait notamment sa réputation, a été passé devant des grands crus bordelais à l'aveugle, qui fait que le Rojard aujourd'hui, si on parle notamment du bourg, donc ils ont le bourg, les Pouilleux, etc., mais si on parle notamment du bourg, c'est des bouteilles à 250-300 euros,
ah oui.
Qui ont montré juste le potentiel de Saumur Champigny. Alors tous les vins de Saumur Champigny ne sont pas comme ça, mais qui a montré le potentiel de Saumur Champigny. Mais Clos Rougeard, voilà, j'aimerais bien aussi, à l'occasion, un jour, d'écouter un Clos Rougeard, donc peut-être pas les bourgs parce qu'il est trop cher.
Dans une autre émission, Pouilleux, alors.
Les Pouilleux à l'occasion.
Enfin, je veux dire, vraiment, ouais, une autre production.
L'émission No Budget, quoi.
Ouais, c'est ça. Quand tu seras embauché dans une grande radio.
Exactement.
Une grande
there
station.
There is no budget.
Yes.
Juste pour dire que voilà, il y a un potentiel à Saumur Champigny pour que le Cabernet Franc, entre guillemets, atteigne des sommets. Voilà. C'est pour ça que je parlais de Chénon et Saumur Champigny en tant que, en tout cas, appellation connue, reconnue en tant que telle.
En tant que, voilà, œnophile un peu attentif, c'est la Loire, une région qui va gagner comme ça en visibilité, en notoriété, les notes, la critique gastronomique. Quand on parle des régions, souvent on se pose la question quel est le regard que peut porter le monde sur nos vins. On a dit que le Jura avait quand même le vent en poupe, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. Les vins de Loire, une fois qu'on a dit que c'était d'excellents rapports qualité-prix, qu'il y a de bons vignerons, qu'il y a une grosse production, est-ce que voilà, c'est un territoire duquel on attend une évolution, une progression?
C'est inévitable, La Loire, c'est un des principaux sites touristiques de France, avec les châteaux. On a réussi à faire classer une partie du Val-de-Loire à l'UNESCO, au patrimoine mondial. Tout ça, ça contribue
à une visibilité immense.
À une visibilité de la région et donc de son patrimoine aussi vinicole. Donc on peut espérer que ces vins, ils vont continuer à
Il y a tout ce qu'il faut
prospérer.
Parce qu'il y a aussi une dynamique, c'est-à-dire que malgré tout, c'est un très très grand territoire et qu'il y a encore beaucoup d'hectares pas chers. On a parlé du Jura, l'Orline, la Borde, pourquoi ça s'appelle Jura? Parce qu'elle peut accéder à la vigne pas chère, etc., à moins de 10 000 euros l'hectare. C'est pareil en Loire, il reste beaucoup de territoires à acheter assez peu cher. Donc en plus, je dirais, il y a une dynamique de jeunes qui s'installent. Encore une fois, pas tous, mais beaucoup en biodynamie. Il y a une grande entraide. Encore une fois, on a parlé de Nicolas Joly, etc., mais il y a beaucoup de vignerons en biodynamie qui ont égrené. Donc, il y a à la fois le potentiel touristique et puis une dynamique de jeunes qui peuvent s'installer avec les prix et qui bénéficient, on va dire, de ce dont on a parlé avec le blogueur, qui est aussi une entraide peut-être pour lutter contre le gel. Il y a aussi une entraide pour accompagner les jeunes gens dans l'installation. Et voilà, donc c'est plus, encore une fois, le réchauffement climatique, alors qu'il crée des aléas. Alors c'est moins le réchauffement, parce que ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on parle de gel qui arrive super tard, donc on se dit il y a le réchauffement, il fait froid, mais en fait c'est le dérèglement, voilà, c'est les hausses de température ou l'arrivée du gel à des périodes qui n'étaient pas classiques, mais du coup, pareil, encore une fois, c'est vrai qu'en 2050, encore une fois, la Loire va avoir un climat bordelais, donc le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon pourront s'exprimer au niveau de Bordeaux, encore une fois, là il y a l'équilibre et la fraîcheur, mais ils vont gagner probablement en température, donc en structure, donc ils vont être au niveau, théoriquement. Il n'y aura pas que le Clos Rougeard, il y aura plein de vins rouges de Loire qui seront au niveau de structure et de fraîcheur des vins de Bordeaux, donc oui, il y a du potentiel. Et puis il y a un gros potentiel aussi, on n'en a pas parlé, mais je pense aussi en Muscadet, donc on est plutôt sur le blanc, même s'il y a des choses qui se font en Coteau-Vendéen en termes de rouge, mais il y a un potentiel aux extrémités, on va dire, en amont et en aval de la Loire. Le cœur de la Loire, pour l'instant, s'en sert, en tout cas de la Loire géographique, est au centre, mais je pense qu'il y a du potentiel côté Vendéen et en Coteau-du-Forez et en Côte-Rouennaise, il y a des choses formidables qui se font. Et donc il y a du potentiel aux extrémités, quoi.
Massif central, et on travaille plutôt le Gamay, si j'ai bien compris.
Voilà, exactement,
si j'ai bien
mais pareil,
compris.
En Coteau Vendéen, il y a des choses qui sont assez sympas.
Fief Vendéen.
Fief Vendéen, merci.
Quelle est la différence, Coteau Vendéen, finalement?
C'est l'appellation.
Une appellation qui est Fief Vendéen.
Oui, quand on est en Vendée, on parle plus de Fief avec notre ami du Puy du Fou, là. On parle plutôt de Fief.
D'accord. Hein, voilà. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. C'est pas grave.
Mais c'est lui.
C'est, c'est lui. Le Puy du Fou. Qu'est-ce qu'on... Bah, je sais pas, des choses à ajouter sur Cabernet Franc, sur la Loire. La prochaine étape nous emmènera du côté de Sancerre pour goûter un Pinot Noir. Hein, quand même.
Exactement.
Le roi des cépages. On a...
Sancerre, probablement le meilleur rapport qualité-prix du monde. Mais ça, ça sera un débat.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est ce que tu penses ?
C'est ce que je pense.
On a savamment évité pour l'instant la Bourgogne, qui est un territoire évidemment monumental en termes de vin, mais d'abord qui n'a pas besoin de beaucoup de publicité, et puis qui est quand même sacrément complexe, et qui est le territoire du Pinot Noir. Et donc, en Loire, on travaille aussi le Pinot Noir, c'est du côté de Sancerre. Est-ce qu'on en tire une expression aussi extraordinaire qu'en Bourgogne, ou il y a d'emblée quelque chose de très différent ?
Pas sur les quotas de diversité, mais on s'en rapproche. Mmh. Il y a eu des dégustations à l'aveugle, on en reparlera à l'occasion, mais encore une fois...
Il y a des Sancerres qui viennent chatouiller un petit peu les chassagnes montrachées.
Qui sont devant et 5 fois moins chers.
Ah oui, c'est ça.
Mais bon, voilà. Bon,
disons-le tout de suite. Ce Bourgueil est un excellent rapport qualité-prix. Du côté de Sancerre, on a des Pinots Noirs, là aussi, avec un bon rapport qualité-prix. La question qu'on n'a pas encore posée, même s'il n'a pas goût de poivron, qu'est-ce qu'on mange avec ce vin ? Peut-être du poivron pour amener le goût, non ? Mais...
Poivron farci.
Oui, poivron farci. Pourquoi pas, tiens ? Pourquoi pas ? Non, mais c'est plutôt un vin. C'est plutôt un vin qu'on boit en mangeant quelque chose, parce qu'il a quand même de la structure, de la puissance. On est
oui,
encore sur les viandes.
C'est puissant. C'est pas hyper puissant non plus.
C'est aromatique.
Exactement, une viande. Classique, un poulet, je pense qu'il sera un petit peu écrasé. Quoique un poulet basquez, un truc avec un peu d'acidité, de punch, ça peut le faire. Mm-hmm.
Voilà, merci Patrice d'avoir répondu à ma question. Les autres se défilent savamment. Grégor, toi qui as découvert ce vin comme ça, là, c'est un peu, tu nous as fait un peu ton coming out de nos fils en disant que tu avais rencontré ce vin et qu'il t'avait ouvert un petit peu les yeux, t'avais donné envie de creuser.
Ouais, qu'est-ce que j'avais fait à manger ce soir-là, je sais plus.
Tu as continué à explorer un petit peu les vins de Loire de ton côté, de celui-là, tu es allé sur d'autres territoires, d'autres domaines, d'autres terroirs
Pas obligatoirement des vins de Loire, non. Je suis retourné un peu dans le Bordelais, mais surtout j'ai goûté les vins différemment depuis.
Oui, il y a un truc dont je me suis rendu compte depuis qu'on fait cette émission, c'est que il y a quelque chose avec la connaissance de ce qui est dans le verre, en fait. Il me semble, à force de tourner autour du sujet, là, que l'œnophilie, elle commence à partir du moment où tu sais ce que tu as dans le verre, où tu t'intéresses au cépage que tu es en train de boire. Déjà, tu as la notion du cépage. Et après, ça devient un réflexe, ça devient un truc indispensable. Quand tu bois un vin, tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça vous parle, ça, ou c'est juste mon ressenti à moi de nos fils récents ? Parce qu'on peut aimer le vin, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le vin sans vraiment savoir ce qu'ils boivent. Et qu'à un moment, il y a un déclic qui fait que tu as besoin de savoir ce que tu bois.
A priori, en tout cas, c'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est de se dire, voilà, c'est intéressant de reconnaître les deux trucs. En gros, c'est quoi le cépage ? Et en gros, est-ce qu'on est au nord et est-ce qu'on est au sud ? En tout cas, si on est en France. Ou alors, est-ce qu'on est sur des millésimes plutôt du nord ou plutôt solaire ? Français d'ailleurs, ou argentin, ou italien, etc. Mm. Voilà, c'est les premières. Donc c'est sûr que le cépage...
Méridional, septentrional.
Voilà, il est discriminant, il est identifiant. Voilà. Et puis aussi, parce que le cépage, on peut partiellement, en tout cas, l'identifier à l'œil. Mm. On sait que le Pinot de Nice, là, pour le coup, et d'autres sont assez clairs, que d'autres sont beaucoup plus structurels et structurés et beaucoup plus denses en couleur. Donc, c'est sûr que le cépage, c'est le prix.
C'est la clé d'entrée, un peu.
Le prime accès.
Ouais, je sais pas. Moi, ça tourne à l'obsession, maintenant, les cépages. J'ai envie d'en goûter d'autres, de découvrir des trucs. Voilà. Bon, c'était une réflexion comme ça que je voulais partager avec vous. Que vous, voulez, hein. vous rebondissez ou pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vois mon Laurent qui est complètement...
Laurent rebondit plus du tout là.
Il rebondit plus du tout, telle une balle qui aurait été un petit peu dégonflée par le rhume. Il ne rebondit plus beaucoup. Ah, Grégor, que veux-tu ajouter ?
On pose souvent la question où est-ce qu'on trouve les vins à Paris ?
Oui.
Et
où est-ce qu'on trouve ce vin à Paris?
Justement, ce week-end, il y a le salon Vivre Autrement du 16 mars au 19 mars.
Ah, voilà.
Et le domaine du Mortier y sera. Donc, vous pouvez goûter tous leurs vins là-bas.
Et c'est où?
C'est au Parc Floral de Paris, à la porte de Vincennes.
Il fera beau le 16 au 19 mars, c'est sûr.
Voilà, ça commence ce soir. Enfin, ça commence aujourd'hui.
Vendredi 16 mars.
Voilà.
C'est ça.
Et donc il y aura
quasiment le printemps.
Voilà, il y a trois domaines de Loire qui seront là, le domaine du Mortier, le domaine Le Rouge-Gérard qui fait des vins d'Anjou et le vignoble Dony qui est de Sancerre.
Bah, formidable. Voilà, si vous écoutez cette émission le vendredi 16 mars, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à courir au Parc Floral de Paris, ça tombe bien, il fait beau, vous emmenez la petite nappe à carreaux. Vous allez rencontrer Fabien et Olivier Boisard.
Cyril
et Olivier ou Cyril et Fabien?
Cyril et Fabien,
je ne sais pas pourquoi Olivier, je ne sais pas. Cyril et Fabien Boisard qui nous ont donc concocté ce vin du domaine du Mortier qui s'appelle Des Pieds et des Mains. À Saint-Nicolas de Bourgueil, même si c'est un vin d'appellation vin de France, mais ça arrive comme ça, il y a des vins qui ont une appellation et puis d'autres pas, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des vins intéressants pour autant. Un vin bio, ma foi, fort délicat et élégant, que vous pouvez donc retrouver voilà, chez toutes les bons cavistes, je ne sais pas, au domaine, pas très cher en plus, hein. On n'a pas dit le prix encore.
Alors, on n'a pas parlé des prix, celui-là c'est le plus cher du domaine qui doit être aux alentours de 25 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais, celui-là c'est le plus cher. Sinon, au niveau des prix, ça commence dans les 8 euros, je crois, pour les sables, une dizaine, 10-11 euros pour les graviers ou pour les pins qui sont eux en Bourgueil. Et le Dionysos qui doit être dans les 12-13 euros.
Merci pour ces précisions, Grégor. Merci à tous les trois pour ce troisième épisode, toujours sur les vins de Loire. C'était l'arrêt Cabernet Franc du côté de Saint-Nicolas de Bourgueil. On se retrouve très vite pour parler Pinot Noir à Sancerre. Merci, à très bientôt. Ciao.
Ciao.